Voilà, donc c'est donc le dernier cours de l'année. En attendant un bon programme l'année prochaine. Je vous promets que l'année prochaine, c'est un très bon programme.
Peut-il être meilleur ?
Comment ?
Peut-il être meilleur que celui-ci ?
Oui, vous allez voir, vous allez être très étonnés l'année prochaine. Alors, donc, pour vous remettre un peu dans le bain, on est en train de réfléchir... J'enregistre. On est en train de réfléchir à la question de l'eschatologie. C'est-à-dire, au terme de l'histoire, l'histoire des hommes, l'histoire du monde, et puis aussi notre histoire personnelle, bien sûr. Et donc, en régime chrétien, on parle de cette fin en termes d'accomplissement, d'une plénitude, d'un achèvement, d'un aboutissement. Voilà, tous les mots qu'on pourrait utiliser. Plénitude, c'est pas mal aussi. Parce que la perspective de la fin, c'est une perspective qui est profondément heureuse. Ça, il faut se le mettre en tête, surtout avec tout ce qu'on va dire maintenant. On sera pour toujours avec le Seigneur. C'est ça qui nous est promis. Et donc cet accomplissement, même si on l'attend, il est quand même déjà là, pour une part, même si ce n'est pas évident à penser. Tout simplement parce qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, du définitif est déjà advenu. Et on sait aujourd'hui, grâce à sa résurrection, que nous ne sommes pas des êtres pour la mort. Et on sait aussi que déjà, le Christ ressuscité, le vivant, vit en nous. Donc déjà là, en quelque sorte, et en même temps, évidemment, pas encore. On est encore dans l'attente, et donc cet accomplissement, il est nécessairement en espérance. On attend le retour glorieux du Christ, vous vous rappelez, sa parousie, parce qu'en effet, nous croyons qu'il reviendra, comme il l'a annoncé, et que ce sera donc, vous vous souvenez peut-être du texte d'Apocalypse, l'avènement d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle. De l'ordre d'une nouvelle création. Donc aujourd'hui, on est dans le temps de l'attente, on est sous le régime de la promesse, mais ça ne nous empêche pas d'espérer. Et on avait dit avec toute cette partie sur l'espérance que dès les premiers temps de l'Église, la foi et l'espérance, ça marche toujours ensemble. La foi est espérance. Et c'est ça que Benoît XVI avait voulu faire dans son encyclique Spe Salvi, c'est redonner à l'espérance toute sa place dans la vie chrétienne. Et le pape François, à l'ouverture bientôt de cette année sainte, nous invite à la même démarche, à être des pèlerins de l'espérance. Et vous rappelez peut-être ce tout petit livre qui s'appelle « L'espérance ne déçoit pas » qu'il a sorti il y a 3-4 mois, justement pour inaugurer cette année sainte. Alors ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a évoqué, après avoir beaucoup parlé de l'espérance, on a évoqué le retour du Christ, et puis ce qui l'accompagne, c'est-à-dire le jugement dernier. On dit dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc on a essayé de traiter de ces deux aspects-là. Et on a parlé de ce jugement, d'abord comme d'une œuvre de justice, une œuvre de salut, parce que la justice de Dieu, c'est une justice dans l'amour. Donc un jugement... salutaire. Un jugement cependant qui tranchera, qui séparera, qui fera la vérité et qui donnera à tout ce qui est juste et vrai dans le monde, dans l'histoire de nos vies, sa valeur éternelle. Aujourd'hui, on va se pencher sur d'autres représentations. Alors, très important de garder en mémoire tout ce qu'on a dit sur les représentations, des idées, des images, des concepts qui tentent de dire les actes de Dieu qui surviendront à la fin dans ce qu'ils ont d'inouï. Mais bien sûr, ces supports, s'ils sont nécessaires, parce qu'il faut bien des mots pour en parler, ça reste que des supports. Et donc, il ne faut pas s'y accrocher. Il faut savoir que la réalité nous échappe et qu'elle déborde ces simples supports. Et en même temps, on n'a pas à rester sans rien dire, parce que notre espérance, elle a quand même vraiment un contenu. Et c'est ça dont il faut... apprendre à rendre compte. Donc aujourd'hui, on va aborder un premier point qui est peut-être un peu déconcertant, qui est cette question de la résurrection de la chair. Et puis ensuite, on passera à une dimension plus individuelle. Quand je parle de retour du Christ, quand je parle de du jugement dernier, vous voyez, on est dans quelque chose de collectif. Et on va passer à quelque chose de plus individuel, qui est le jugement particulier, c'est-à-dire celui qui attend chacun de nous à notre mort. Et puis, bah, les trois issues qui lui sont, que nous présente la foi, qui lui sont liées, qui sont le ciel, l'enfer et le purgatoire. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions qui restaient en suspens par rapport à la dernière fois ? Alors, voilà le plan. Vous voyez ? Bah, si ça vous va, à ce moment-là, on attaque ce paragraphe 4, résurrection des morts et immortalité de l'âme. La foi en la résurrection des morts, elle est biblique. Et au départ, c'est une question juive dont on hérite d'Israël. Et on a examiné dans le cours sur la mort, qui date un petit peu maintenant, les fondements de cette foi. Qu'est-ce qui avait permis au peuple d'Israël d'en arriver à croire en une résurrection des morts ? Parce que ce n'était pas inné. Pendant longtemps, Israël n'a pas cru à ça. Et on avait dit que c'était l'approfondissement au fil du temps de leur expérience de Dieu. Parce qu'ils avaient dans l'histoire l'expérience d'un Dieu qui était fidèle envers et contre tout, Israël a peu à peu compris sa relation à Dieu comme indestructible. A compris que Dieu ne pouvait pas laisser ses amis, pour reprendre des mots, des psaumes, ses amis voir la corruption. Qu'il ne pouvait pas les abandonner à la fosse. Voilà, psaume 15 par exemple. Ensuite, pour nous chrétiens, cette conviction qui était celle d'Israël, évidemment, elle va trouver de nouveaux ancrages. Dans quoi ? Oui, dans la résurrection de Jésus-Christ. D'accord. Parce que Jésus, c'est vraiment celui qui a vaincu la mort. Il est, pour reprendre une expression de saint Paul, le premier-né d'entre les morts. Jésus, c'est celui qui nous ouvre le chemin vers la vie, avec un grand V. Et si vous voulez aller lire des petits un passage biblique là-dessus, mais on l'avait déjà évoqué, vous pouvez lire la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15. Alors, comment parler de cette résurrection des morts ? D'abord, il faut le dire, c'est un acte de Dieu. Peut-être que ça vous paraît évident, mais la résurrection des morts, ce n'est pas une propriété de l'homme. De ce point de vue-là, il y a une grosse différence avec la conception grecque, pour laquelle, on va s'y attarder tout à l'heure, pour laquelle l'homme possède en propre une âme immortelle. Là, pas du tout. Dans notre conception à nous, c'est vraiment Dieu qui est en cause. Celui qui opère la résurrection des morts, c'est Dieu. Et si l'homme ne peut plus être anéanti, c'est parce qu'il est connu et aimé de Dieu. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a dit, effectivement, dans le plan détaillé, l'expression n'est pas bonne, parce que j'ai mis « Dieu ramène à la vie ceux qu'il aime ». Dans ma tête, ceux qu'il aime, c'est tous les hommes. Il les a créés par amour et il les aime. Il n'y a pas une sélection. Il ne ramènerait pas à la vie ceux qu'il aime et puis il laisse tomber les autres. Hein. Ceux qu'il aime, c'était un englobant pour moi, mais il faudra que je change. Donc. Et quand Dieu ramène à la vie les hommes qu'il aime, il les ramène vraiment eux, dans tout ce qu'ils sont, avec toute leur capacité relationnelle, leur capacité d'être et de vivre en relation avec ce qui les entoure, avec le monde, avec les autres et avec Dieu lui-même. Ce qui passe aussi par le corps. Parce que le corps, c'est vraiment l'instrument de notre relation au monde. Alors maintenant, on dit c'est un acte de Dieu, comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Ça, personne ne peut le dire. La seule chose qui est en notre pouvoir, c'est de confesser que c'est un acte que nous attendons et que nous espérons de sa part. Un acte de Dieu. Après, on trouve dans la tradition de l'Église deux affirmations, deux formulations pour exprimer la foi en la résurrection des morts. Est-ce que vous les voyez ? Dans le credo de Nicée-Constantinople, celui qui est un peu plus développé, qu'est-ce qu'on lit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, dans le credo, on dit « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. J'attends. » Et dans le symbole des apôtres, qui est un peu plus ancien, on ne dit pas « J'attends », on dit « Je crois à la résurrection de la chair. » Donc, résurrection des morts d'un côté et de la chair de l'autre. Et cette idée d'une résurrection de la chair, c'est vrai qu'elle est assez troublante. À la limite, on accepterait une résurrection pour l'âme, comme chez les Grecs, mais pour le corps, ce corps qu'on expérimente évidemment corruptible, c'est moins facile. Comment est-ce que ça, c'est possible? Alors là, la première étape, c'est qu'il faut redonner aux mots leur vrai sens, et pour ça, il faut faire un petit peu de sémantique. Qu'est-ce que c'est que la chair du point de vue biblique? En hébreu, c'est bazar, en grec, c'est sarx, et la chair, ce n'est pas la chair comme on l'entend dans le langage courant. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps physique, le corps charnel, la viande, si je peux dire, nos tissus, c'est pas ça. La chair, dans la Bible, elle désigne l'homme tout entier, parce que l'anthropologie sémitique, c'est une anthropologie qui est unifiée, elle voit l'être humain comme un tout, très différent chez les Grecs, deux choses, deux composants juxtaposés, une âme dans un corps. L'anthropologie sémitique, c'est l'être comme un tout, et donc la chair, elle désigne bien l'homme tout entier, mais elle le désigne dans sa condition fragile, vulnérable, dans sa condition concrète de créature, soumis donc aux limites de sa condition, soumis à la souffrance, soumis à la mort, soumis au péché. La chair, en deux mots, c'est l'homme dans sa fragilité. Et si vous vous rappelez de Romains 8 qu'on a lu, vous vous souvenez peut-être de cette opposition qui faisait entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Ben, la vie selon la chair, c'est l'homme tout entier, mais qui est limité à ses propres forces. La vie selon l'esprit, c'est la vie de l'homme qui est habité par l'esprit de Dieu, qui vient le transformer de l'intérieur. Donc la chair, l'homme tout entier, mais dans sa condition fragile. Dans la Bible, le terme de chair et le terme de corps sont très proches. Il y a une légère nuance, mais c'est très proche. Donc quand Jésus, à la dernière scène, dit « Ceci est mon corps livré pour vous », est-ce qu'il veut dire « Voilà mes cellules biologiques livrées pour vous » ? Mais non, il dit « C'est ma vie, c'est moi tout entier, c'est toute ma personne qui est livrée pour vous, c'est moi qui est livrée pour vous. » Donc une fois qu'on a compris ça, vous voyez, ça évite déjà un premier écueil qui est de chosifier le corps. Il ne faut pas réduire le corps à sa dimension matérielle. Donc quand je dis résurrection de la chair, déjà gardez ça en tête, c'est pas le corps dans sa dimension charnelle, matérielle. Ce qui est très intéressant, c'est que cette conception biblique du corps, donc vous voyez, englobante de l'homme tout entier, dont nous héritons, elle rejoint tout à fait, pour une fois, l'anthropologie philosophique contemporaine. Parfois, on a des gros désaccords entre la manière de voir chrétienne et puis la philosophie contemporaine. Et bien là, on se rejoint tout à fait. Parce que cette philosophie-là, elle est tout à fait d'accord pour dire que le corps, c'est beaucoup plus que la matière. C'est la vie. Le corps, c'est ce par quoi on reçoit et on vit une existence qui est personnelle, qui n'est pas celle de mon voisin. C'est ce par quoi le corps, je peux exercer ma liberté, je peux la manifester. Le corps, c'est le lieu de la relation aux autres. C'est le lieu de mon histoire aussi. C'est le lieu de l'amour. C'est le lieu du travail créateur. C'est le lieu de la souffrance. C'est le lieu de la joie. Donc vous voyez, entendu ainsi, le corps ne peut pas être réduit à simplement une réalité organique biologique. Donc là, il y a correspondance entre la manière dont la Bible voit les choses et la manière dont aujourd'hui la philosophie voit les choses. En fait, notre corps, c'est nous-mêmes. Et c'est pourquoi chacun peut dire à la fois « j'ai un corps » et « je suis corps ». J'ai un corps, et ce corps, ben, je l'expérimente, mortel, périssable, et je sais bien qu'il est voué à la mort, et que je suis voué à la mort. Mais aussi, je suis ce corps. Je suis ce corps vivant, c'est moi. Moi, dans ma singularité irréductible, c'est ce corps qui constitue mon identité à travers le temps et qui me permet d'entrer en relation avec les autres. Et c'est pourquoi tout en moi proteste contre le scandale de la mort. C'est pourquoi aussi, parce que le corps c'est pas simplement la viande, que dans de tout temps, on voit bien, les sépultures anciennes l'attestent, le corps n'est pas un simple objet. Et c'est pourquoi on l'entoure de tant de soins et qu'on ne peut pas le traiter comme un simple cadavre d'animal. Le corps d'un homme mort, c'est pas un homme, mais c'est pas un objet non plus. Et là-dessus, en Occident, on a un consensus qui est assez partagé. À ce corps, le christianisme, dont vous voyez la tradition juive, sémitique, de tout le poids déjà qui donne à ce corps, À ce corps, le christianisme va vraiment donner un poids de gloire tout à fait inédit. À cause de quoi ? Plus simple que ça.
De l'incarnation.
Et ben voilà, à cause de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, prologue de Jean. Le Verbe s'est fait chair. Est-ce que vous voyez la dignité que revêt cette chair que Dieu n'a pas hésité à assumer ? La dignité de ce corps qui est capable de Dieu, hein, au sens où il n'en est pas indigne. Ce corps que Paul appelle le temple du Saint-Esprit. Et le christianisme, de ce point de vue-là, va plus loin que tout ce qu'on aurait osé imaginer. À tel point que Guéché, dont je vous ai souvent parlé dans un de ses articles, il ose parler de l'invention chrétienne du corps. Adolphe Guéché. L'invention chrétienne du corps. Voilà. Tout ce préambule pour dire que quand la foi parle de la résurrection de la chair, vous voyez ce qu'elle dit ? Que la résurrection concernera le tout de notre condition humaine et que le corps, dans cette condition, il en est une dimension essentielle. Donc la résurrection des morts, ce sera la résurrection de la personne, tout entière. Au jour de ma résurrection, Dieu fera revivre celui que j'ai été. Hein ? La foi en la résurrection, elle suppose une restauration intégrale de la personne humaine. Une restauration intégrale, avec un corps vivant, mais sous un autre mode que notre corps terrestre d'aujourd'hui. Ce qui, évidemment, c'est là où c'est pas si évident à saisir, ça nous laisse un petit peu démunis, avec un corps, mais différent de celui d'aujourd'hui. Alors, Paul a plusieurs formules pour expliquer ça. Alors, vous allez me dire peut-être, ah ben, encore Paul, mais c'est normal, parce que c'est vraiment le premier qui commence à penser ces choses. Quand il écrit, il n'y a pas d'évangile. Aucun évangile n'a encore été rédigé. Il est vraiment le premier. Alors, de quoi il nous parle, Paul ? Ben, il nous parle, pour parler de ce corps ressuscité, d'un corps spirituel, d'un corps glorieux, d'un corps incorruptible, d'un corps qui revêt l'immortalité. Mais peut-être que ça vous dit quelque chose, parce qu'au deuxième trimestre, dans le texte de Sesboué qui s'appelait Croire, il y avait des petits éléments déjà là-dessus, dans les textes de groupe. Alors, on va essayer de prendre ces formules et puis de voir, de les décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un corps spirituel ? Déjà, on se dit, bah, y a une contradiction. Parce que le corps n'est pas l'esprit et l'esprit, c'est pas le corps. Et il faut entendre ce choc entre les mots. Pourquoi est-ce qu'on les associe ? Eh bien, vous voyez, une formule comme celle-là, un corps spirituel, laisse entendre que le corps ressuscité ne sera pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Et qu'il y aura une discontinuité radicale entre le corps mortel et le corps ressuscité, puisque ce sera un corps spirituel. Ce n'est pas la chair biologique qui ressuscite. Notre corps, il sera libéré de toutes les contraintes naturelles, de toutes les nécessités naturelles qui le rendent justement périssable. En même temps, je parle bien de mon corps spirituel. Donc, à travers cette discontinuité entre notre état actuel et notre état futur, il faut quand même tenir une sorte de continuité. Et c'est ça qu'annonce la résurrection de la chair. Discontinuité, ce ne sera pas tout à fait le même, mais continuité. C'est bien la chair qui ressuscite. Hein, la chair au sens où on a dit. Hein. Donc oui, on est encore dans un paradoxe. Il y aura une continuité qui sera respectueuse de ce que nous sommes, de notre identité historique, et il y aura une discontinuité qui, à travers la brisure de la mort, nous fera passer de notre condition actuelle, qui est marquée par la finitude, qui est marquée par le péché, à la condition de corps spirituel et glorieux. On pourrait parler de ce corps comme d'un corps, plutôt que de dire spirituel, réconcilié avec l'Esprit Saint, transformé par la puissance de l'Esprit. Je ne sais pas si ça vous parle plus, mais j'essaie de donner des petites pistes. Alors, pour nous faire comprendre ça, Paul, en son temps, a utilisé une image, qui est l'image du grain qui meurt. Ben justement, dans la fameuse lettre aux Corinthiens, la première, au chapitre 15. Faut faire l'effort de se mettre dans les mentalités de l'époque. À l'époque, on connaît pas les processus biologiques, hein, physiques, biologiques. Tout dans la création, tout dans les phénomènes de la nature est vu comme un miracle. Aujourd'hui, on analyse, on décortique, on explique. À l'époque, c'est pas comme ça que ça se passe. On a un regard sur les choses qui est beaucoup plus admiratif. On voit dans toute chose les merveilles de Dieu. Eh bien, partout, on se dit, mais ça, c'est la puissance créatrice de Dieu qui est à l'œuvre. Ben, de la plante qui émerge à partir d'un grain qui est mis en terre, voilà, cette plante qui émerge d'un grain mis en terre, c'est une merveille. Et bien, dit Paul, l'être corporel concret, le nôtre aujourd'hui de l'homme, il est un peu semblable à cette semence. Il explique ça aux Corinthiens qui résistent à l'idée d'un corps ressuscité, à l'idée de la résurrection. Alors voilà ce qu'il leur dit. Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. Puis Dieu lui donne corps, comme il le veut, et à chaque semence de façon particulière. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semés corruptibles, notre corps actuel, on ressuscite incorruptible. Semés méprisables, on ressuscite dans la gloire. Semés dans la faiblesse, le grain, on ressuscite plein de force, la plante. Semés corps animal, on ressuscite corps spirituel. Donc vous voyez, Paul prend l'image de la germination merveilleuse du grain à qui Dieu donne corps. Continuité, hein. La plante, le grain de blé, il n'est pas d'une graine de rhubarbe. Il y a une continuité. Et en même temps, discontinuité. La plante, c'est pas le grain. Voilà. Et bien, dit Paul aux Corinthiens, la résurrection, c'est vraiment un acte incompréhensible pour nous de cette toute-puissance. C'est le passage du corps animal, périssable, au corps spirituel, glorieux, céleste. C'est un changement de statut. Mis en terre, le corps ressuscitera glorieux. Alors c'est une image, et puis comme nous aujourd'hui on explique et que ça nous paraît plus comme un miracle, on se dit bah, peut-être que cette image elle n'est pas très bonne pour nous, mais est-ce que ça nous empêche de reconnaître dans ce mouvement merveilleux de la vie la puissance créatrice de Dieu? Non, je crois pas. Et est-ce que c'est absurde de croire que celui qui a la puissance de la création aura la puissance de la recréation? Voilà, des questions. Alors, je vais vous donner, là c'était l'image de Paul, mais je vais vous donner une représentation artistique. On a vu le jugement dernier de Van der Weyden. Qu'est-ce qu'on voit tout en bas? On a une petite section qui représente la résurrection des morts. Il y a des peintres comme Fra Angelico, quand ils veulent représenter la résurrection des morts, ils montrent des tombeaux ouverts. Van der Weyden, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la terre qui éclate sous la poussée des corps qui germent. On est complètement dans la ligne de Paul. C'est le temps de la recréation. La terre était aride, elle redevient fertile. On voit qu'elle commence à se couvrir de fleurs. Et puis il y a les mottes qui s'écartent et les morts remontent des profondeurs, comme s'ils renaissaient à une vie nouvelle. Des corps jeunes, des corps beaux, dans la plénitude de la vie. Des corps nus, ce qui n'est pas du tout évident au Moyen-Âge, parce qu'on n'avait pas tellement de goût pour les nus. Mais ce que Van der Weyden a voulu représenter, c'est des corps spiritualisés. Des corps qui ne sont plus un obstacle à une vie habitée par l'esprit. Corps spirituel. Expression de Paul. Paul parle aussi de corps glorieux. La gloire dans l'écriture, ce n'est pas le triomphe. Ce n'est pas la réussite humaine. C'est le visage de Dieu en vérité. Quand on nous... Oh, pardon. Quand on nous dit que Dieu glorifie son Fils dans la Bible, ça veut dire qu'il le révèle dans ce qu'il est véritablement lui-même. Alors, pour le coup, c'est un peu la scène de la transfiguration. Hein ? Il le révèle qui échappe aux contingences, qui vide la vie divine. Alors là, je vous ai mis beaucoup de tableaux du XVIe, et voilà un tableau du Gréco, qui est au Prado. C'est la résurrection. Je vous le mets en plus gros. Ben, vous voyez, on voit tous les corps, il y a un enchevêtrement de corps avec les gardes, tout ça, tous ces corps qui s'enchevêtrent, etc. Et on voit le corps du Christ, vertical, lumineux, comme s'il sortait un peu d'un bain, qui apparaît. Un corps tout neuf, qui appartient à un autre espace. Bon, ben, une représentation comme une autre. Le corps glorieux, ça sera notre corps, on pourrait dire dépollué, complètement purifié, dépollué de tout ce qui a été péché. Évidemment, c'est abstrait, hein. Corps spirituel, corps glorieux. Mais on peut... On propose deux pistes pour approcher ce mystère, en fait, d'un corps glorieux. On peut se servir d'abord des apparitions de Jésus après sa résurrection. Donc là, le Gréco, il le représente au moment de la résurrection. Mais vous savez qu'ensuite, Jésus est apparu à ses disciples. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, à chaque fois, la continuité et la discontinuité. Exemple, les disciples d'Emmaüs. Là, Rembrandt les a saisis au moment de la reconnaissance, quasiment. Donc les disciples assistent à la mort de Jésus, ils s'en retournent tout désespérés, Jésus les rejoint sur la route, ils s'arrêtent dans l'auberge. Et là, on le voit, le moment où ils reconnaissent Jésus, avec lequel ils avaient vécu avant sa passion, qu'ils connaissaient bien. Mais ils ne le reconnaissent pas d'emblée. Discontinuité. Ils le reconnaissent à partir de quoi ? À partir de certains gestes décisifs, et notamment la fraction du pain. C'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. On nous dit aussi quand même que leur cœur était déjà tout brûlant quand ils leur expliquaient les Écritures sur le chemin. Voilà. Il y avait une préparation. Leur cœur était tout brûlant quand ils leur parlaient. Mais il a fallu un temps. L'apparition aux 11 avec Thomas. Il apparaît aux 11, Thomas n'était pas là, il revient. Les portes sont verrouillées, on nous dit que Jésus se tient au milieu d'eux. Donc, discontinuité, les portes sont verrouillées et il est là, c'est comme s'il obéissait plus aux contraintes de l'espace et du temps. Mais il est présent avec quoi ? Avec les marques de la crucifixion. Avec ses plaies. Continuité. Regarde mes mains, dit-il à Thomas, avance ta main dans mon côté. C'est le chapitre 20 de Saint Jean. Voilà. Continuité, discontinuité. Donc tous ces récits d'apparition, évidemment, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Vous vous mettez dans la peau des auteurs du Nouveau Testament qui ont manifestement fait une expérience extrêmement forte que Jésus était vivant. Et il faut qu'ils se débrouillent comme ils peuvent pour essayer d'en rendre compte de cette expérience, avec les moyens dont ils disposent. Mais ce qu'on voit, au-delà du descriptif, qu'on voit, c'est que Jésus est vivant et qu'il est à la fois le même et en même temps un autre, d'où ce moment de flottement. Donc première piste pour essayer d'approcher cette réalité du corps ressuscité, les apparitions de Jésus. Mais il y a une autre piste qui est peut-être de se référer, si on part de notre point de vue, de se référer à des moments un peu privilégiés de notre vie. Ces instants de grâce dont peut-être on a fait l'expérience et où le corps semble déjà presque complètement spiritualisé. Exemple, quand l'art et la beauté provoquent une émotion et une joie tellement exceptionnelles qu'elles donnent le sentiment d'une victoire sur la matière, la perfection d'une danse où on a l'impression que le corps échappe aux contingences, un musicien qui fait tellement corps avec sa matière qu'on est transporté, vous voyez, comme si on était libéré du poids de la matière. Les moments d'amour, les moments où on expérimente avec quelqu'un une communion parfaite. Et puis, les expériences mystiques. Alors, je ne sais pas si vous en avez fait, moi, j'en ai jamais fait, mais les expériences des saints qui relatent des extases mystiques. Voilà, chez certains. Voilà, autant d'expériences qui peuvent peut-être nous introduire à une compréhension de ce corps spirituel dont parle Paul. Alors, tout ça, évidemment, reste mystérieux. Si je résume de manière un peu à la hache, la résurrection des corps, si c'est pour rester indéfiniment comme on est aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Et la question n'est pas de savoir si on ressuscitera avec notre corps de 20 ans ou de 70 ans, si on va ressusciter blonde ou brune. Hein. Le corps ressuscité, ce n'est pas la chair biologique. Et en même temps, si ce n'est pas nous qui ressuscitons, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc la question, c'est de savoir en quoi est-ce que nous garderons, après la mort, la capacité d'entrer en relation conformément à ce que je suis. Je ressusciterai, moi, avec mon corps, mais dans la plénitude, riche de tous ces liens que j'ai tissés sur cette terre, capable de participer totalement à l'amour divin et d'aimer en plénitude et sans limite. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le départ sur cette question-là, on n'est pas dans l'ordre d'un savoir. Mais on vise quand même quelque chose qu'on essaye d'exprimer avec nos pauvres mots, Mais le fond du fond, c'est que c'est bien nous tout entiers qui ressuscitons. Est-ce que ça va ? Comment ? Mais non, vas-y, Jessie.
Non, mais tout le monde parle de body summer en ce moment, mais ça sera pas ça.
Body summer ?
Ouais.
Non, ce sera pas le body summer, bien pour les maillots de bain. Non. Non. Voilà, donc résurrection de la chair. Première chose à vraiment, alors là, à bannir de votre idée, c'est que la chair, c'est le corps charnel biologique. C'est beaucoup plus que ça. D'accord ?
Moi, je trouve que dans,
pardon,
dans tout ça, ça n'a rien à voir avec le chemin biblique, ce que je vais vous dire, mais le plus dur dans la mort, c'est la gestion des absents.
Ah bah oui. Bah,
ouais. La gestion des absents, de ceux qu'on aime.
Bah bien sûr, mais c'est... Bah, c'est... Et en fait, notre seule expérience de la mort, c'est celle-là.
Ouais.
Parce que notre seule expérience de la mort, c'est la mort des autres. Et c'est la vie sans eux. Ben voilà, ben oui, ben bien sûr. Voilà. Mais là, vous voyez, on n'est plus dans un champ d'intelligence de la foi. On est dans un champ spirituel, dans un champ... voilà.
Ça, je dis
que ça n'avait rien à voir. Ouais. Non, mais ça n'empêche pas que c'est vrai. Ça n'empêche pas que c'est vrai. Oui, Marie-France.
Dans l'Eucharistie, quand on dit « ceci est mon corps », là, ça paraît plus plausible de manger le corps glorieux que le corps de chair.
Bah, bien sûr. Mais vous savez qu'il y a une époque... On dit attention, on dit aux enfants attention, faut pas croquer, le ski, etc. Non, on n'en est plus là, heureusement. Ouais, c'est ma vie, c'est moi. C'est moi qui viens demeurer en vous. C'est moi tout entier qui viens demeurer en vous. Alors, pour le dernier jour, un acte de Dieu, la résurrection de la chair, troisième point, cette résurrection, c'est pour le dernier jour. Tout simplement parce que la résurrection, elle concerne pas simplement le tout de la condition humaine, c'est-à-dire l'âme et le corps, mais elle concerne aussi tous les hommes. Quand on pense l'homme dans sa totalité, c'est pas le considérer simplement dans l'unité de son corps et de sa chair, c'est de le penser aussi dans sa solidarité avec tous les autres. Eh bien, la résurrection concerne tous les hommes. Et il ne peut pas y avoir d'accomplissement plein et entier sans que tous les hommes, si j'ose dire, soient au rendez-vous. C'est pour ça qu'on dit que cette résurrection, elle est attendue au dernier jour. Pourquoi le dernier jour ? Bah parce que aujourd'hui, il manque encore au Christ tous ceux qui ne l'ont pas rejoint, tous ceux qui ne sont pas morts, et même tous ceux qui ne sont pas encore nés et qui un jour mourront. Et donc, on peut dire avec Sesboué et avec d'autres, que la résurrection, en quelque sorte, elle comporte jusqu'à la fin, un déjà-là et un pas encore. Sesboué, il parle d'une résurrection à deux faces. Un déjà-là pour le défunt, et en même temps, un accomplissement qui est encore à venir de la résurrection de tous. Et celle-là, elle est attendue au dernier jour. Alors, question peut-être, qu'est-ce qu'il advient du défunt en attendant, si je peux dire, entre guillemets, en attendant ? Alors ça, c'est une question qui n'a absolument pas préoccupé les premières générations de chrétiens. Ce n'était pas leur sujet. Mais comme, petit à petit, la résurrection du dernier jour se faisait attendre, vous vous souvenez ce qu'on a dit sur la parousie, le Christ ne revenait pas, on l'attendait de manière imminente, mais il ne revenait pas, on va commencer à se demander ce qui advient un peu dans cet entre-deux du décès d'une personne et de la résurrection au dernier jour. Qu'est-ce qu'elle devient au temps de ce temps qui continue pour nous et dans lequel, comme vous disiez, Geneviève, on vit séparé d'elle ? Est-ce qu'elle est ressuscitée ou pas ? On parle du bonheur immédiat de la vision de Dieu à la mort de chacun. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec une résurrection qu'on repousse à la fin des temps ? Le problème, c'est qu'on est tenté d'imaginer qu'elle aussi, elle vit une durée entre sa résurrection et la résurrection de l'étang. C'est un peu à la fin des temps, c'est un peu la même probabilité que le jugement dernier et le jugement général, le jugement particulier. Alors, pour vous donner un exemple de débat, on a eu la querelle au XIVe siècle, là-dessus, parce que c'est le temps de la grande peste au XIVe, plus je vous passe toutes les épidémies, toutes les disettes à répétition, etc. La mort est partout, et donc on va se demander si les morts, si les justes, bénéficient dès leur mort de ce qu'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire l'union à Dieu. Ben, plein de débats, Et la controverse, elle va être tranchée par le pape de l'époque, Benoît XII, pape d'Avignon, qui va publier une constitution, donc un document assez important, affirmant que, oui, les justes entrent dès leur mort en possession de la vision béatifique sans attendre la résurrection générale. Alors, ce qu'il faut voir derrière, c'est l'idée qu'il y a. Ben, l'idée importante derrière, c'est que la personne humaine, elle ne peut pas rester sans relation à Dieu. Elle ne reste pas comme ça, dans un état intermédiaire, comme si elle était un peu en suspens, sans relation à Dieu. Et cette conviction, c'est déjà celle de Paul, quand il écrit aux Philippiens. À ce moment-là, donc, il était très très lié avec la communauté de Philippe, parce que la communauté de Philippe l'avait beaucoup soutenu, financièrement et puis moralement. Et quand il leur écrit, Paul est en prison à ce moment-là. Il vit des moments très durs. Il est toujours resté en contact avec eux, et voilà ce qu'il leur écrit. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. Mourir m'est un gain. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, un travail avec vous, hein, je ne sais que choisir. Je suis pris dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, et c'est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas est plus nécessaire à cause de vous. Aussi, je suis convaincue, je sais que je resterai, que je demeurerai près de vous tous pour votre progrès et la joie de votre foi. Vous voyez ce qu'il leur dit ? Mourir m'est un gain. Pourquoi il peut dire une chose comme ça ? Parce que Paul croit qu'après sa mort, il sera avec le Christ. Et être avec le Christ, voilà. C'est ce qu'il attend juste après sa mort, et que ça, c'est bien préférable à demeurer ici-bas. Vous voyez sa position ? Il est dans un conflit. Et qu'est-ce qui fait pencher la balance ? C'est le fait que les Philippiens ont besoin de lui. C'est la conscience de sa responsabilité d'apôtre, de pasteur. Et on voit bien dans ce texte que pour lui, après sa mort, il est avec le Christ, tout de suite. Donc la résurrection, elle comporte, jusqu'à la fin des temps, un déjà là et un pas encore. Vous voyez, ce couple-là, déjà là, pas encore, on ne cesse de le dire, mais c'est vraiment le couple majeur de l'eschatologie. Quand on pense à l'eschatologie aux fins dernières, il y a toujours un déjà là et un pas encore. Toujours. Un déjà là, qu'on peut expérimenter, un pas encore, parce qu'on n'est pas dans l'accomplissement définitif. Pour comprendre ces choses-là, évidemment, bah, il faut dépasser les représentations temporelles de l'éternité. Quand quelqu'un nous quitte, il abandonne l'ordre de la temporalité et il bascule dans le royaume de Dieu, dans un autre ordre qui est celui de la résurrection. Et de ce point de vue, bah, aux défunts, tout leur est devenu déjà présent. On n'est plus dans le temps. Ils vivent déjà en quelque sorte la fin générale des temps, ils participent déjà à la résurrection. Et en même temps, de notre point de vue, tant qu'il reste des hommes sur cette terre qui ne sont pas ressuscités, est-ce qu'on peut dire que la résurrection est accomplie ? Non. Non. Il y a quelque chose qui reste inachevé. Voilà. Et cet inachèvement, bah, vous le disiez, hein, Geneviève, il nous affecte. Voilà. On fait bien, quand on fait l'expérience de la séparation avec ceux qu'on a aimés, eh ben, on voit bien qu'on est affecté. Et que la résurrection, elle n'est pas complète. Eh ben, ça affecte aussi le monde des ressuscités. Donc une résurrection pour le dernier jour.
Yves. La communion des saints.
Alors on va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler. Oui, on va en parler dans le chapitre sur le purgatoire. Absolument. Il y a une communion des saints qui dit simplement que on est connecté, on est solidaire, et pas simplement sur cette terre, mais que l'Église d'ici-bas, elle est en communion avec ceux qui sont déjà dans le ciel. Mais c'est exactement ça l'idée de la communion des saints. Et qu'on peut des choses les uns pour les autres. Ça va ? Elisabeth, non. Vous voyez, on n'est jamais dans du descriptif. Hein. On ne peut pas être dans du descriptif. Vous avez dit, la curiosité, elle est vaine en ces matières. Par contre, quand je dis c'est tout nous-mêmes qui ressusciterons, ça dit quelque chose, ça c'est une idée forte. Ou que la résurrection, elle n'est pas inachevée simplement parce que nous, on est ressuscités, mais qu'on doit prendre ces liens qui nous tissent les uns aux autres. Voilà, ça c'est une idée forte aussi. Après, se représenter, ben, Alors vous allez voir, je vais vous montrer. Tout à l'heure, on va voir des représentations. On voit bien qu'il y a des représentations du passé qui ne collent plus aujourd'hui. Hein. Alors, je voulais quand même vous dire un mot de la tradition de l'immortalité de l'âme. Donc là, on est chez les Grecs, les philosophes grecs. La résurrection des morts ou de la chair, c'est une représentation biblique. Autant dire que c'est celle qu'on partage avec les Juifs et puis avec les autres églises chrétiennes, les orthodoxes, les protestants. Et c'est celle qui est vraiment dans notre tradition de foi. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la tradition chrétienne ne s'est pas enfermée dans la conception juive. Et elle a intégré quelque chose, un petit quelque chose, de la conception grecque en lui reconnaissant une certaine valeur. Et cette conception-là, elle parle de l'immortalité de l'âme. Alors, dans la philosophie grecque, vous voyez, on est quelques siècles avant Jésus-Christ. Hein, Socrate, il est mort en 399. Derrière, vous avez Platon, voilà, 4 siècles avant Jésus. L'anthropologie qu'a produit l'Antiquité grecque, c'était une anthropologie extrêmement différente de l'anthropologie sémitique, qui, elle, était unifiée, un être qui est un tout. Chez les Grecs, on est dans un dualisme. Deux composants, le corps, l'âme. Et on conçoit l'être humain comme une âme dans un corps. Le lieu de l'âme, c'est le monde des idées, le monde intelligible. Et l'âme est éternelle, comme les idées. Et puis il y a un corps qui est lié à cette âme, mais lui, ce corps, il est périssable. Et Platon nous dit, il est à l'âme comme une prison, ou comme un tombeau. Vous voyez, deux images un peu pathétiques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le corps enferme l'âme dans ce monde corruptible, alors qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est séjourner dans le monde des idées. L'âme, elle est tombée dans un corps. Qu'est-ce qui se passe à l'heure de la mort pour les Grecs ? À l'heure de la mort, l'âme va être libérée du poids du corps, et elle va s'élever toute seule vers l'immortalité. Vous avez ça chez Platon. Dans une de ses œuvres, le Phédon, Platon raconte la mort de Socrate, donc qui était son maître. Et Socrate n'a jamais écrit une ligne, hein. C'est Platon qui a écrit. Et on voit Socrate, peut-être que vous connaissez l'histoire, Socrate qui a été condamné par la cité à mourir. Et donc Socrate est entouré de ses disciples, il les a réunis, on lui apporte la ciguë, il va devoir boire le poison. Et là, dans un dialogue qui est vraiment admirable, mais si vous avez l'occasion de lire ce petit passage, c'est extraordinaire de vous dire ça, 2500 ans, c'est extraordinaire. Il affirme qu'il croit que la mort n'est pas la fin de tout. Après avoir bu le poison, dit Socrate, je ne resterai plus auprès de vous, mais partirai, m'en allant vers certaines félicités qui sont celles des bienheureux. Il faut avoir confiance, il faut dire que ce que tu ensevelis, c'est mon corps. Que tu ensevelis, c'est simplement mon corps, cette prison. Un peu plus loin, l'âme est immortelle et indestructible, et c'est bien réellement que nos âmes existeront dans l'Hadès. L'Hadès, c'est comme le Sheol, le séjour des morts. Voilà. Donc là, c'est extrêmement, extrêmement clair. Hein. L'idée d'une immortalité de l'âme qui jaillit, surgit 2500 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est ce que construit la sagesse grecque. Mais honnêtement, enfin, moi je trouve que c'est déjà vraiment bouleversant de penser ça. À l'époque, c'est le mieux qu'on puisse espérer pour l'homme. Mais c'est quand même déjà inouï. Et c'est inouï de se dire qu'ils sont arrivés à ça, cette idée-là, sans la révélation. C'est-à-dire simplement par l'exercice de la raison. Voilà. Ils ont quand même abouti à cette idée. Voilà pour la tradition grecque. La tradition grecque ne dira jamais rien de la résurrection de la chair. D'ailleurs de tout l'homme, jamais. Par contre, l'immortalité de l'âme, elle va faire une petite apparition dans la Bible, dans des récits qui sont tardifs, dans des textes qui sont tardifs, notamment dans le livre de la Sagesse, c'est un livre qui a été écrit à peu près un siècle avant Jésus, et un livre où on reconnaît des influences platoniciennes, justement. Voilà, ben je ne vous l'ai pas mis. Voilà. Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, mais ils sont dans la paix, les âmes des justes. Et dans la tradition catholique, est-ce qu'on retrouve l'idée d'une immortalité de l'âme ? Réfléchissez à ce qu'on entend, ce que vous avez entendu, peut-être dans les générations au-dessus, pour les plus âgés.
oui.
Qu'est-ce qu'on disait?
On était dualistes, on séparait le corps et l'âme, c'était des vieux restes grecs qu'on avait.
Ben regardez, quand on parlait, Sainte Thérèse de Lisieux, elle parle tout le temps de salut des âmes. Je vous ai raconté l'histoire de Pranzini, là, le condamné à mort. Elle parle tout le temps de salut des âmes, mais c'était courant à son époque. On parlait du salut des âmes. Dans les cantiques qu'on chantait à l'époque, « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, je veux la préserver. »
On dit « paix à son âme » aussi.
« Paix à son âme », oui, exactement, c'est pour sûr. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est des choses qui nous paraissent un peu désuètes. Il y a beaucoup pour les âmes du purgatoire. Oui. On en reparlera au moment du purgatoire. On fait moins. Et c'est pour vous montrer qu'il y a des petits restes, en fait, quand même. Et que notre foi, elle est tissée d'influences multiples. Et Benoît XVI, il a écrit un bouquin qui est vraiment très très bien, un bouquin général, hein, sur la foi chrétienne. Il s'appelle « Foi chrétienne, hier et aujourd'hui ». C'est pas énorme. C'est vraiment très bien comme, voilà, ouvrage général sur la foi. Et eh ben, il dit attention de ne pas oublier. Comment ? Oui, ouais, mais maintenant vous êtes de plus en plus costaud aussi. Et ben, il nous dit, Benoît XVI, il ne faut pas oublier cet héritage grec. Donc. Voilà, parce que voilà, on est tissé de tout ça et que l'insistance sur l'âme, elle n'est pas si intéressante. Pour autant, attention, hein, on a ça, mais la pensée chrétienne n'est pas dualiste. Elle n'est pas dualiste. Hein. Ce n'est pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre. L'âme, d'un point de vue chrétien, elle n'est rien sans un corps. Elle n'a pas d'existence propre. Et à l'inverse, le corps, il n'est rien sans une âme. C'est l'âme qui lui donne son unité, qui lui donne sa vie. Donc, c'est pour ça que ça a des conséquences très concrètes. Dans la foi chrétienne, on considère que rien n'est spirituel qui ne soit charnel, rien qui ne soit charnel qui ne soit spirituel. Vous voyez très bien ça dans la liturgie, par exemple. Et c'est pour ça qu'on ne se désintéresse pas de tout ce qui se passe concrètement dans notre vie. Ça dit quelque chose de l'esprit. Oui.
Est-ce que lors du Concile Vatican II, ça a été repris en charge cette difficile question du dualisme et quand même de l'immortalité de l'âme dans le christianisme ?
Non. Non, je ne crois pas. Je ne vois pas. Spontanément, il n'y a rien qui me vienne... Non, Vatican II, c'est complètement intégré. Ça, c'est pas un sujet de débat. Que c'est tout notre être qui ressuscite, en fait. C'est pas quelque chose qui est contesté, ça. Il y a d'autres sujets, vous allez voir. L'enfer, là, il y a plein de débats. Là-dessus, non. Le problème qu'on a là, c'est plutôt d'arriver à dire les choses, d'arriver à se les imaginer. Mais on peut pas se les imaginer, hein. Donc voilà, d'un côté la foi biblique en la résurrection des morts, et là vous voyez, on valorise plus le corps, et donc tout ce qui nous relie au cosmos, tout ce qui nous relie aux autres, la capacité relationnelle, le côté solidaire, et puis ben, quand on insiste sur salut des âmes, et ben, on valorise plus peut-être la dimension individuelle, la dimension personnelle. Hein, vous voyez. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que notre espérance, elle porte toutes ces connotations, et à chaque fois, c'est ce qu'on dit sur les représentations, il y a plusieurs représentations, chacune d'elles dit quelque chose du don de Dieu, et il faut tout tenir ensemble. Voilà. Voilà pour la résurrection. Est-ce que... Est-ce que vous avez des remarques ? Non, ce que je vous propose, pour qu'il en reste moins après la pause qu'avant, je vous propose de faire le paragraphe sur le ciel. Et puis après, comme ça, on terminera après la pause sur l'enfer et le purgatoire. Là, pour l'instant, là où on en est, on a été à l'essentiel, en fait. Hein. L'essentiel, c'est de se dire le retour du Christ en gloire, le jugement dernier... La résurrection des morts, il y aura un acte de Dieu qui comporte toutes ces facettes-là. Il y aura un acte de Dieu qui portera le monde et la totalité de la création et de l'histoire à leur accomplissement. Donc on est dans un salut là, un accomplissement qui est considéré d'un point de vue collectif. Le passage de notre monde, ici, dans le monde de Dieu. Donc, tout le monde paraîtra devant le Christ et puis chacun ira à son destin. Et dans le Nouveau Testament, comme dans l'Église ancienne, l'insistance, elle porte d'abord sur ça, sur cet aspect collectif. Sauf qu'au cours des siècles, les préoccupations vont se déplacer et là, le chacun pour soi va se mettre à prendre de plus en plus de place. Et donc, on va assister à ce qu'on appelle un dédoublement de l'eschatologie, avec une eschatologie individuelle, c'est-à-dire qui concerne la personne, qui va venir se greffer à l'eschatologie collective, qui était celle du départ. Et donc, on va se demander comment ça se passe, comment ça se joue, comment ça se modèle pour chacun de nous personnellement. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. L'idée de jugement, derrière, elle se déplace. Déjà, elle se déplace. Puisqu'on personnalise les choses, eh ben on va être amené à envisager un jugement particulier avant le jugement dernier général et qui va se passer pour chacun dès l'heure de la mort. Dans le Nouveau Testament, vous avez deux petits indices qui parlent de ça. Mais je vous ai dit, ce n'est pas l'essentiel, mais deux petits indices. Ce que vous voyez, un jugement juste après la mort. Deux passages de l'Évangile.
C'est Matthieu,
25. Non. Oui, non, parce qu'on a dit que c'est par toutes les nations, c'est quand même assez général.
C'est le riche qui...
Oui.
Le
riche. La parabole de Lazare et du mauvais riche. Et on voit Lazare à sa mort, le pauvre Lazare, qui est tout de suite emporté par les anges aux côtés d'Abraham, alors que le riche est à la torture. Et puis avec le bon larron sur la croix, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Il n'y a pas de jugement,
mais aujourd'hui, il sait où il est déjà. Il y a déjà l'issue. Donc, vous voyez, l'idée d'un jugement particulier, elle n'est pas complètement absente du Nouveau Testament. Mais elle est mineure, alors qu'elle va devenir au fil des siècles la préoccupation dominante. Et on va voir s'appauvrir l'idée de jugement général. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jugement particulier ? Toujours pareil, il faut revenir à l'essentiel de ce qu'on croit comme chrétien. Et puisqu'on croit que Dieu a pour chacun un amour unique, un amour qui ne sera pas rompu par la mort, on peut croire qu'après notre mort, cet amour unique que Dieu a pour chacun s'exercera envers chacun, là encore de manière unique, dans le respect de ce que chacun est, dans le respect de sa liberté. C'est ça qu'on entend par jugement. Un jugement, comme on n'a pas cessé de le répéter, qui sera avant tout un jugement de salut. Dieu veut pouvoir nous dire, comme dans la parabole, « Entre dans la joie de ton maître », la parabole des talents, en Matthieu 25-23. Mais ce sera aussi un jugement où la lumière, un moment, où la lumière de Dieu va venir éclairer toute notre vie, où elle va scruter toute notre existence, où une immense clarté se fera en nous. Peut-être qu'on verra les choses comme Dieu les voit, je ne sais pas. En tout cas, on apparaîtra dans la vérité de ce qu'on a été. Il n'y aura plus de masques. Les masques vont tomber. On sera vraiment dans la vérité. Une opération vérité, en quelque sorte. C'est ce Boué parle comme ça. On devra s'en remettre à une autre lumière que la nôtre, à une autre justice que la nôtre, à la justice de Dieu, qui est à la fois plus exigeante et en même temps qui est plus miséricordieux. Comme le rappelle la lettre de Jean, Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que la justice de Dieu, elle s'exerce dans l'amour, toujours. Et que c'est une justice toujours salvifique. Alors la question est, sur quoi va déboucher ce jugement ? Et là, il y a trois grandes possibilités dans la tradition chrétienne qui sont, on les désigne dans notre tradition sous le nom de ciel, d'enfer et de purgatoire. Alors le ciel. Si un enfant vous pose la question de ce que devient une personne après sa mort, je pense que dans beaucoup de cas, vous lui direz « elle est montée au ciel ». Ça veut dire qu'elle y est auprès de Dieu. Et évidemment, ce ciel-là dont on parle n'a rien à voir avec le ciel cosmique, le ciel réel, le ciel scientifique. C'est encore une représentation, c'est un ciel symbolique, mais qui a un fondement anthropologique très fort. Ce langage de se dire que le ciel, c'est la demeure de Dieu, il ne vient pas de nulle part. Depuis que l'humanité est l'humanité, que les hommes pensent et s'interrogent sur Dieu, le ciel est considéré comme le lieu de Dieu, comme sa demeure. Peut-être parce que le ciel ouvre en nous l'idée de l'infini. On a les pieds sur la terre, mais on regarde vers le ciel et il ouvre en nous l'idée de l'infini. Et dans les dans les cultures anciennes, on avait un univers à étages. Il y avait les démons ou les morts sous la terre, nous à la surface, et puis le ciel, qui était le monde de Dieu. Et la Bible, elle est pleine de symbolisme. Jésus lui-même parle du ciel comme du monde de Dieu, quand il dit « le royaume des cieux, notre Père qui est aux cieux, vous aurez une récompense dans les cieux, vous avez un trésor dans les cieux, vos noms sont inscrits dans les cieux ». Tout ça, ça veut dire « auprès de Dieu ». Donc le ciel, c'est le fait d'être avec Dieu et avec le Christ. Mais il y a d'autres manières de dire la même chose. On parle par exemple de vie éternelle. Ça veut dire exactement la même chose. Autre représentation, mais qui veut dire la même chose. Vie éternelle, c'est une représentation qu'on trouve beaucoup chez Jean. Et c'est celle qui conclut notre credo quand on dit « je crois à la vie éternelle ». Qu'est-ce que ça signifie, là encore, de vivre éternellement ? La difficulté pour se représenter les choses, bah c'est juste le mot éternel. Parce qu'il fait vraiment partie de ces mots que l'usage qu'on en fait au quotidien a complètement vidé de son sens. Éternel, on l'entend le plus souvent comme une durée indéfinie. Un temps qui se prolonge sans fin. Mais il est faux de penser que le temps se prolonge après la mort. Que les choses continuent après la mort. Comme les Égyptiens qui mettaient des objets pour, dans les tombes pour assurer tout ce qu'il aurait besoin pour continuer sa vie après la mort. L'éternité ne se poursuit pas derrière le temps vécu. L'éternité n'est plus le temps. Elle supprime le temps. Elle l'abolit. Karl Rahner dit « Il ne faut pas parler de prolongement à l'infini, il faudrait plutôt parler de définitif. » Il dit « Les temps sont supprimés dans ce qui est définitif. » L'éternité, c'est là où quelque chose de notre existence atteint sa dimension définitive. Alors évidemment, c'est très dur à concevoir pour nous. Parce que nous, on est prisonniers du cadre temporel. On ne peut penser que dans l'espace et que dans le temps. Donc on est prisonniers de ça. Dès qu'on veut en sortir, on bute. Donc l'éternité comme une réalité qui ne disparaît pas, qui ne naît pas, qui n'évolue pas, et en même temps qui est quand même vivante, c'est très très abstrait pour nous. C'est très conceptuel. Qu'est-ce que ça peut être qu'une vie vivante qui serait dispensée du temps ? Eh bien, à nouveau, une piste, réfléchissons à nos expériences. Vous savez bien qu'il y a différents temps dans la vie. Il y a le temps de la montre. Et là, je vois que dans 5 minutes, il faut faire la pause. Et ça s'écoule. Et qu'on soit passionné ou ennuyé, ça s'écoule de la même manière. C'est le temps qui se mesure. Et puis vous avez le temps vivant, existentiel, dans lequel on est engagé avec des heures intenses et puis des heures vides qui se traînent et qui se traînent et qui se traînent et qui n'ont pas la même durée. Et puis, il peut arriver parfois qu'on s'éprouve arraché au temps qui passe. Parce qu'on vit des instants d'une telle plénitude, d'une telle authenticité, qu'on a l'impression que le temps s'arrête. Et qu'on frôle de peu un achèvement, une plénitude. La plénitude d'une vie qui contient tout. Où la mort, où le néant, où la fin ne sont plus à craindre. Des instants au bout d'éternité. Voilà, notre expérience peut-être. La vie éternelle, en réalité, c'est une participation, mais on l'a déjà dit dans le cours sur les saluts, c'est une participation à la vie même de Dieu. C'est l'union à Dieu, c'est vivre de sa vie. Et en quelque chose, c'est déjà commencé, parce qu'on vit déjà pleinement en enfant de Dieu. Déjà, le Christ demeure en nous. Déjà, sa parole nous fait vivre. Déjà, quand vous communiez, vous l'accueillez en vous. Déjà, l'Esprit Saint nous est donné. Donc il y a déjà quelque chose qui vient en nous. La différence, c'est qu'après notre mort, nous verrons Dieu face à face. En fait, la vie éternelle, ce sera comme ce qui nous est encore caché aujourd'hui, sera pleinement manifesté. Voilà ce que dit Paul. À présent, nous voyons dans un miroir, vous voyez, de manière interposée et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Et puis Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est l'union à Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et le connaître, c'est le voir. Vous voyez bien, dans nos échanges, ici-bas, la place que le fait de voir l'être aimé prend. À quel point c'est important de voir l'être aimé, l'entendre, le toucher, le voir, parce qu'on est corps justement. Ben, en quelque sorte, on pourrait dire que ce qui se passe aujourd'hui à travers les organes de nos sens, ça pourrait être appliqué par analogie à un toucher, à un voir, à une écoute spirituelle. Nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Dans l'Ancien Testament disait, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, il affirme le lien du voir et de la vie éternelle. Et ça commence quoi avec l'incarnation, non ? Qui m'a vu a vu le visage du Père. En Jésus, on voit l'image du Père. En Jésus, on voit le Père déjà. C'est la grande nouveauté du Nouveau Testament. Alors, donc voilà, ça c'est l'inouï de la foi chrétienne, c'est d'affirmer que l'homme est appelé à voir Dieu face à face et à entrer dans une vie de communion avec lui. Que vous l'appeliez communion, union, participation à sa vie, etc. Le connaître, le voir et vivre de sa vie. Et cette correspondance entre connaître et voir, il y a un père de l'Église, dont on a déjà parlé, qui est Saint-Irénée, qui l'a souligné dans une formule beaucoup, hein, mais notamment dans cette formule très célèbre, la gloire de Dieu, c'est-à-dire tout le projet de Dieu, tout ce qui lui permet d'être tel qu'il est, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est vraiment une très belle phrase. Ça dit le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est un projet de vie. Et nous, notre vie en plénitude, c'est de pouvoir voir Dieu.
Alors, cette fois, on ne meurt pas en voyant Dieu.
Non. Ça sera au contraire la plénitude. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est limité, parce que c'est limité par nos propres limites. Même si Jésus, déjà, est venu bouleverser ça. Mais là, ça sera la vision parfaite, la vision béatifique, la vision bienheureuse. Là, voilà. Donc, vous voyez dans ce qu'il dit Irénée, là. Il dit, ce que Dieu veut, c'est faire de nous des vivants. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et cette vision, elle est béatifique. Béatifique, ça veut dire elle rend parfaitement heureux. C'est ça, le mystère de la vie éternelle, c'est ça. La proximité absolue avec Dieu. On verra Dieu, ça nous rendra parfaitement heureux. Si je résume, la vie éternelle n'est pas une vie indéfinie. L'éternité, ce n'est pas une question de temps. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense. C'est un bonheur. C'est un accomplissement. Ce n'est pas une survie après la mort. C'est la vie avec un grand V. En fait, c'est rien d'autre que, expression de Benoît XVI, ça sera l'immersion dans l'amour infini de Dieu. Une vie, parce qu'elle sera unie à Dieu, sera et est déjà aujourd'hui plus forte que la mort. Une vie éternelle d'amour, d'échange, de communion avec Dieu et les autres. Alors je vous ai mis quand même une petite phrase de ce fameux livre dont je vous ai parlé de François, L'espérance ne déçoit pas, qui dit très bien ça. Nous avons besoin d'un bonheur qui s'accomplisse définitivement dans ce qui nous épanouit, c'est-à-dire dans l'amour, afin que nous puissions dire dès maintenant, je suis aimé, donc j'existe. Et j'existerai toujours dans l'amour qui ne déçoit pas et dont rien ni personne ne pourra jamais me séparer. Qui nous fait vivre, ce qui nous rend heureux, c'est d'être aimé. Et dans la vie future, cet amour, il nous sera donné en plénitude, sans tous les obstacles qu'on connaît aujourd'hui à nos amours. Alors, avant Marie-Christine, je vous propose juste de terminer avec quelques représentations. Alors, si vous regardez dans l'Évangile, hein, on n'a pas beaucoup de représentations de la vie éternelle, pas très peu d'images. Alors les peintres, évidemment, ben, ils ont voulu représenter ça, comme ils ont voulu représenter la résurrection, ils ont voulu la représenter. Van der Weyden, il n'en dit rien, parce que si vous vous rappelez, dans le jugement dernier, les morts, ils attendent, les heureux élus, ils attendent au bas de l'escalier. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Fra Angelico, triptyque du jugement dernier, à peu près à la même époque, on est à Florence. Vous avez dans ce tableau que je vous ai mis dans son ensemble, on a une vue du paradis, sur la partie gauche, là. Très très beau. Des prairies, les anges et les élus qui dansent au milieu des fleurs, tout le monde s'enlace, on se prend les mains, on fait une ronde, tout est joyeux. Une vie éternelle pleine de senteurs, de musique, les petites fleurs, ça déborde du bonheur des retrouvailles. Mais, aligné devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'on voit ? Des saints, des saintes avec une belle auréole, beaucoup d'évêques, des papes, si vous regardez dans le détail, des cardinaux, des moines, des religieuses. Pour vous dire que c'est, voyez, c'est vraiment une manière de voir les choses et qui est tributaire du contexte. Vous voyez à quel point nos représentations, elles dépendent de notre société, de notre culture, etc. Je vous donne une autre représentation.
C'est quoi ces carrés machins, là ?
Ouais. Des trous, là.
Ben, je me demande si c'est pas des tombeaux. Ouais, qui sont
des tombeaux ouverts.
Ou des tombeaux ouverts. Voilà, vous voyez les tonsures, hein, ils ont tous des tonsures, un cardinal, des religieuses, encore une tonsure, voilà, des religieux, des évêques, voilà, et puis quelques saints quand même. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment typique d'une époque. Je vous en montrer une autre, parce que ça ne nous parle plus trop aujourd'hui. Le polyptyque de l'agneau mystique des frères Vanek. Donc on repart dans les pays du Nord, là. Ça, c'est un tableau qui est conçu à partir d'images qui sont tirées de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Et donc, vous voyez, on met en scène, en fait, ce qui est de l'ordre d'une liturgie eucharistique, dans un très beau paysage, qui est entre le Jardin d'Éden et la Jérusalem céleste. L'agneau au milieu, l'agneau sacrifié, clairement identifié au Christ, parce qu'on voit le sang qui coule de son côté dans un calice. On voit les instruments de la passion qui sont portés par les anges, donc il n'y a pas de doute. Les petits versets écrits sur les broderies de l'autel où on a « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et puis on voit toutes les foules qui convergent vers lui, revêtues de l'habit de noce en haut. C'est ça le ciel ? La vie éternelle ? Une messe qui n'en finit pas ? Est-ce que ça ne sera pas un peu long ? Vous voyez, des représentations par lesquelles on est obligé de passer, mais qui nous font bien comprendre qu'il ne faut pas s'y arrêter et qu'il faut à un moment consentir à une chute des images. On ne sait rien de la manière dont les morts vivront leur union à Dieu. Toutes les représentations ne peuvent être que déficientes, mais ce qu'on peut tenir, par contre, c'est que ce ne sera pas une vie ennuyeuse. C'est la vie bienheureuse, la béatitude. Maurice Denis, voilà, on est au 20e, là, musée d'Orsay. Voilà, ben, un jardin merveilleux, le chatoiement des couleurs, la douceur des formes, ben, pour dire l'insaisissable, pour dire quelque chose qui nous échappe. On a beaucoup parlé de peinture, mais si on parlait musique, pour les musiciens, eh ben, écoutez la fugue du Gloria de la messe en si de Bach, Gloria in excelsis Deo, et là vous avez des notes comme des rafales qui nous emportent, qui nous soulèvent, c'est une tempête de louanges, avec un amen qui sera sans fin. On sera vraiment dans la gloire de Dieu le Père. Et là, c'est très beau, et on est transporté. Voilà. Autre manière de le dire en musique. Je termine sur le ciel avec une prière que vous connaissez peut-être parce qu'elle est parfois lue dans les enterrements. C'est une prière de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, c'est le XVIe siècle. Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je crois. Je crois seulement qu'un grand amour m'attend. Maintenant que mon heure est proche, que la croix m'indique le seuil à franchir, alors ce que je crois, c'est que c'est vers cet amour que je marche en m'en allant. C'est dans son amour que je tends les bras. C'est dans la vie, avec un grand V, vous voyez, que je descends doucement. Descendre dans la vie. Voilà, manière plus spirituelle de dire les choses. Mais c'est toujours la même idée. Voilà, ce qui est dit là, c'est vraiment le mystère de notre destinée divine. On est fait pour Dieu. Et il faut dire tout de suite, c'est sur cette vie-là, avec un grand V, que se centre toute notre foi. C'est elle la plus importante. Même si, à côté de la vie éternelle, la foi nous parle aussi d'enfer et de purgatoire, qui sont bien présents dans notre imaginaire et qui ne sont pas sans dire quelques difficultés. Et c'est pour ça qu'on va quand même en dire aussi quelque chose. Voilà.
S'il vous plaît, où est-ce qu'on vous dit dans l'Ancien Testament « Nul ne peut voir Dieu sans mourir »
haut à plusieurs reprises. À Moïse. Il faut se voiler les yeux, je vais vous dire. Attendez, j'éteins ça déjà. Voilà, donc je suis un petit peu en retard, mais s'il y en a qui veulent de manière complètement informelle, quelques...